Salut à toutes et à tous, auditrices et auditeurs fidèles des Radios Libres. Vous êtes en direct sur Radio Méga à Valence, antenne 99,2, ou sur radio-unionmega.com. Atomic Mac, c'est cette émission spéciale. Atomic Mac est une émission antinucléaire mensuelle réalisée par Arrêt du Nucléaire, Drôme Ardèche. L'équipe est composée aujourd'hui de Jean-Pierre aux choix musicaux, Christine et Gérard aux interviews et à l'animation et réalisation technique, Hugo. Alors aujourd'hui nous avons plusieurs invités. Il y aura Kurumi Sagita qui est connu sur Radio Méga et les radios partenaires dans Atomic Mac, Christian Courbon qui est le premier salarié de la CRIRAD, Yuki qui nous présentera son association. Il y aura aussi des représentants de Vigilance Malvésie et du collectif Les Bois Noirs. Nous les citerons tout à l'heure. Alors, ce matin, je suis allé poser quelques questions aux personnes qui s'installaient sur cet espace absolument sympathique en direct de Montpellier. Et je vous propose d'écouter leurs réactions. Alors, je vous donnerai leur nom ensuite.
C'est un événement très important parce que ça souligne un combat contre une idéologie du nucléaire très dangereuse. C'est une industrie et une idéologie aussi, d'une énergie toute puissante, sans danger, mais très 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 dangereuse.
Si je vous dis que dans l'expression centrale nucléaire, le mot central est aussi dangereux que le mot nucléaire.
C'est très juste.
Très juste.
Pourquoi, voilà. Pourquoi pour vous, on peut se référer au film de Marie Tavernier, qui a été présenté là, cette semaine à Valence, à Lux. Mmh. Et donc qui montre bien comment les ouvriers du nucléaire, notamment les sous-traitants, sont considérés comme des personnes...
La viande à REM.
C'est ça, la viande à REM, oui, il se nomme comme ça, voilà. C'est exact. Voilà.
Et vous Antoine, vous découvrez la CRIRAD quand ?
C'est comme si ça avait toujours existé pour moi. Je me souviens d'une explosion de sodium sur le pont de Valence lors d'une manif. Voilà, c'était des trucs un peu marquants. C'était au moment de... Enfin, quand ils voulaient créer la centrale nucléaire de Super Phoenix à Malville. Et puis pour moi, pour la famille, parce que c'est pas que personnel, la CRIRAD, c'est un point de repère, à la fois sur une approche scientifique et sur une approche citoyenne.
Comment vous voyez l'avenir de la CRIRAD ?
Comme l'avenir de toutes les associations ou structures, entre guillemets, environnementales, même si le mot il n'est pas tout à fait juste. On a besoin de renouveler notre manière de faire. Il y a des modes de lutte qui évoluent, très différents les uns des autres, mais qui sont peut-être complémentaires. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel qui s'opère. Alors est-ce que ce renouvellement générationnel va aussi se faire part dans les structures ? Ça, c'est une histoire qu'on ne sait pas écrire encore. Je pense qu'il y a une grosse réflexion là-dessus à avoir.
Oui, on fera le bilan dans 10 ans pour le 50e anniversaire. C'est ça.
Moi, je viens de la Belle-Meuse. Malheureusement, là-bas, il y a un site industriel. Nous luttons contre ce projet très, très dangereux. Et cela fait à peu près 20 ans que nous battons, tout simplement. Et il y a beaucoup de violence là-bas, de violence policière. C'est un centre d'enfouissement pour les déchets.
Pour des milliers d'années.
Et est-ce que une fois que l'enfouissement sera terminé, qu'adviendra-t-il ? Nous ne le savons pas. Et donc moi je suis à la CRIRAD et je soutiens cette association depuis 20 ans à peu près, depuis le début de la lutte. Nous travaillons avec la CRIRAD, Zone Libre et associés, voilà. Oui, nous avons le même objectif.
Voilà, alors la première personne qui est intervenue, c'est Anne-Claude qui est pas loin de nous d'ailleurs. Christine, je te laisse la parole, c'est à toi pour nous faire découvrir les activités de Kurumi et Yuki.
Bonjour, bonjour Kurumi.
Bonjour.
Bonjour Yuki.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous présenter votre association et comment elle a été créée.
Kurumi d'abord. Oui, moi je m'appelle Kurumi Sugita, je suis représentante de l'association Nos Voisins Lointains 3.11, 3.11 étant 11 mars 2011. Donc, c'est le jour fatal de début de triple catastrophe. Donc, notre association coopère avec des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi et aussi certain nombre de victimes de bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Notre objectif est donc de ne pas venir pour aider des victimes, mais plutôt pour coopérer avec elles, parce que nous, en tant que résidentes ici en France, nous avons besoin de leur expérience et leur expertise. Voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Et si vous avez des questions à nous poser, à moi et Yuki, nous sommes là, nous avons des têtes japonaises.
Yuki Takahata, maintenant.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Yuki Takahata et nous, on est plutôt dans la région parisienne. Et c'est après l'accident de Fukushima, beaucoup de ressortissants japonais, surtout, mais pas que, ont été extrêmement choqués par donc, cet accident. Et que donc nous avons commencé à faire des actions contre le nucléaire, etc., avec des associations françaises, mais aussi on a voulu créer une sorte de réseau de ressortissants, pas seulement en France, mais à travers plusieurs villes. Mais maintenant, là, on travaille surtout avec une copine de Berlin, là, qui était venue aujourd'hui, et Kurumi et notre association Yosomono, pour, en fait, parce que la France étant, et ça, on l'a compris par rapport à l'Allemagne, les infos sur Fukushima, c'était minable en France, c'était beaucoup, beaucoup de désinformation. Et donc, c'était pour vraiment essayer de relayer des infos et des luttes sur place contre des victimes ou des citoyens, contre pour la sortie nucléaire, etc. Et puis, vraiment soutenir donc, en tant que citoyen, parce que nous pensons qu'en face, nous avons un pouvoir pro-nucléaire extrêmement puissant, surtout en France. Donc, on doit vraiment avoir une solidarité internationale. Voilà.
Mesdames, quelles ont été vos premières relations avec la CRIRAD? Comment avez-vous connu la CRIRAD? Skurumi d'abord.
Oui, en fait, moi, je suis chercheuse retraitée de CNRS. Et mon dernier projet était faire une enquête sur des victimes de l'accident de Fukushima, mais qui habitaient au moment de l'accident en dehors des zones officielles d'évacuation. Donc ce sont des gens qui ont quitté les territoires contaminés à leur propre initiative. Et dans ce cadre-là, j'ai contacté la CRIRAD et donc on a commencé à travailler un peu, pas ensemble, mais on échangeait des informations. Et par la suite, lorsque on a fondé l'association Nos Voisins Lointains 3.11 en 2013, là on s'est rapproché parce que notre association réalise par exemple les tournées de conférences des mères et des enfants de Fukushima. Donc dans ce cadre-là, la CRIRAD a invité les délégations deux fois et il y a eu des échanges et puisque l'équipe de CRIRAD est allée à Fukushima au mois de mai et juin 2011 pour faire des mesures. Et ils ont aidé beaucoup les populations locales pour constituer le réseau de petits laboratoires de mesures. Donc nos relations sont étroites et c'est très précieux.
Yuki?
Oui, c'est pareil parce que tout de suite après l'accident, on a vu que CRIRAD a informé le public français. On a fait la traduction japonais aussi au début. Et puis, il y a donc des citoyens japonais qui s'étaient engagés. CRIRAD a formé des membres enfin des quelques Japonais. Bruno est devenu très ami avec un membre fondateur d'un des centres de mesure. Donc on suit parce qu'on trouve vraiment que c'est fait un très très bon travail. Par rapport aux mesures, par rapport à l'analyse. Donc on suit très près. Et puis si on peut faire des choses.
Collaborer.
Voilà quoi. Et puis Cliade est maintenant assez très connu parmi notre milieu anti-nucléaire au Japon, oui.
Absolument. Oui. Rappelons que la CRIRAD n'est pas une association antinucléaire, mais une association qui informe sur le nucléaire. C'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Moi, Kurumi, vous disiez justement qu'il y a des échanges. Et toi, Christian, approche-toi, parce que un peu plus, voilà. Merci beaucoup. Tu es très discipliné aujourd'hui. Bon, alors on voudrait revenir pour croiser un peu vos trois portraits. Toi, tu es le premier salarié de la CRIRAD, on se connaît depuis 40 ans, puisque voilà, tu es arrivé il y a 40 ans au moins. Oui, on se connaît depuis au moins 40 ans. Et alors, comment t'es rentré, toi, à la CRIRAD ?
Comme je le dis toujours, j'avais le bonheur d'habiter à côté de chez Michel Rivasi.
Pour qui on a un immense respect tous ici.
Voilà. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'ai été un des premiers contaminés par Michel pour faire partie de la CRIRAD.
D'accord. Ouais, tu es arrivé en gros en tant que adhérent.
Bénévole.
Et oui, puis, comment t'as basculé ? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui savait un peu tout faire.
Tu
étais le bricoleur et t'es arrivé quoi ?
J'étais adhérent, bénévole, j'avais fait un petit peu d'études scientifiques. Et donc, comme j'étais disponible, j'avais du temps. Donc j'ai participé aux premiers travaux du laboratoire, à la construction du laboratoire.
À Montboucher-sur-Japon.
Le premier labo était à Pont-de-Barré, dans une cave, dans une ancienne usine, pas très confortable. Et après, on est arrivé à Montboucher-sur-Japon au mois de décembre 86.
D'accord. Alors, Kurumi et Yuki disaient que les échanges sont importants. Toi, tu as été à Fukushima, on en reviendra tout à l'heure, mais tu as aussi été à Tchernobyl. Et je voudrais revenir sur un aspect dont on a discuté quand je t'ai demandé de venir, sur l'aspect de la notion de sidération.
Ah oui. Alors, moi, j'ai, enfin, la sidération, c'est la première grosse sidération, ça a été Tchernobyl. Donc je suis allé à Tchernobyl en 2000, donc depuis 86, on parlait de Tchernobyl, on faisait Tchernobyl, on mangeait Tchernobyl, on était Tchernobyl. Et puis après, quand on se retrouve devant le panneau routier Tchernobyl, ça fait froid dans le dos. Et puis quand on va après visiter, c'est un grand mot, la ville de Pripyat, donc c'est glaçant. Alors là, j'ai été très, très marqué.
Ouais.
J'ai mis plusieurs mois à me remettre de ça. Et j'ai été tout aussi marqué quand on est allé à Fukushima, parce qu'on y est allé assez rapidement, on y est allé au mois de mai, donc on était dans une là-bas, il y avait une désorganisation totale. On prenait les barrages de zone dans l'autre sens, parce que quelqu'un nous avait indiqué une petite route pour rejoindre. Et après aussi, on a été confronté juste avant d'arriver à Fukushima, le bled, la petite ville juste avant, où le barrage routier avait été déplacé, parce que l'endroit où était placé le barrage routier était très contaminé, donc par rapport aux gens qui étaient sur le barrage. Donc voilà, c'était la confusion totale, quoi. Donc, comme à Tchernobyl, on a vu des villages abandonnés. Et puis après, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on est allé je ne sais plus le nom de la ville, quand on est arrivé dans une ville ou pas loin du port, c'était Minam, je ne sais plus. Et donc, on a vu la ville dévastée. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que les fondations des maisons, des empilements de voitures. Et on a vu aussi les empilements, avant de rentrer dans la ville, des montagnes de déchets qui avaient déjà commencé à être enlevés. C'était incroyable. Il y en avait sur des kilomètres d'état qui faisaient 10 mètres de haut, où tout était pêle-mêle. Voilà. Et puis après, toutes les destructions, ça fait très drôle de croiser dans la rue un chalutier de 70 mètres qui est posé comme ça au milieu des maisons. Et puis voilà, ça a été vraiment... ça m'a moins touché au fond que Tchernobyl. Voilà. Ce qui était bien, parce que Bruno Charréron, qui était avec moi, lui a été cisaillé à Fukushima. Et moi, donc, j'ai pu assurer un peu, parce que je ne dis pas que ça m'a glissé dessus, mais j'étais moins touché.
Oui, tu avais eu le baptême du feu avant.
J'avais eu le baptême du feu avant.
Oui, voilà. ce qui est intéressant de préciser, ouais, cette notion de sidération et l'émotion par rapport au reportage qu'on peut avoir où les gens rigolent sous le dôme, le truc et tout. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils font du tourisme, quoi.
Oui,
absolument scandaleux. À toi, Christine.
Il y a eu, après Tchernobyl, la création de laboratoires en France. Après Fukushima, il y a eu la création de plusieurs laboratoires. Lesquels et sous quel statut?
Alors, il y a eu des petits laboratoires. Là, c'est la différence entre la France et le Japon. Parce qu'en France, bon, il y a la CRIRAD, il y a l'ACRO, mais, mais au Japon, ce sont vraiment des petites laboratoires. Donc, c'est plutôt des réseaux de ces petits laboratoires qui fonctionnaient très bien. Et au fur et à mesure que les gens sont moins intéressés par le fait de contamination, et là, c'est en grande partie à cause de la propagande des autorités, du gouvernement central et de Fukushima. Alors, il y a moins de gens qui arrivent au laboratoire pour faire mesurer des aliments, par exemple. Donc, il y a beaucoup de laboratoires qui sont fermés. Et là, il y a un peu une...
Et la courbe baisse, quoi.
Ça a beaucoup baissé. Oui.
Et quel est le statut de ces laboratoires? C'est associatif? C'est citoyen? C'est...
Il n'y a pas d'équivalent de loi 1901 au Japon. Donc, si ce sont des grandes associations laboratoires, ce sont des organisations non gouvernementales ou non-profit, NPO. Mais s'il s'agit de très petits, ils n'ont même pas ce statut.
Oui, des collectifs, quoi.
Le financement est posé, là. C'est pire que pour la CRIRAD. Comment c'est financé?
Non, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Ah non. Donc, au début, ce qui finançait ces laboratoires, c'était la population qui venait pour faire mesurer les aliments. Donc, ils ont payé pour ces services. Et puisqu'ils ne sont plus, donc ils n'ont plus la ressource financière.
D'ailleurs, il n'y a pas une solidarité avec les autres régions du Japon, qui justement, pour financer ça, parce que ça nous paraît complètement fou, nous.
Par exemple, ça, c'est une série de laboratoires citoyens qui sont mis en réseau.
Oui.
Et donc, ils se financent un peu entre eux, quoi.
Oui, oui. Ouais. Ils se financent comme ils peuvent, quoi.
Ouais, voilà. Oui, voilà. Oui.
Donc, il peut y avoir des hauts et des bas.
Et puis, maintenant, ça commence à être vraiment de moins en moins...
Avec la propagande de l'État qui dit « c'est fini, il n'y a plus de problème » et compagnie, ce qui est faux, puisqu'ils ont monté les normes. Hein. C'est énorme. Ok, je voudrais revenir avec toi, Christian. Tu as parcouru le monde quasiment pour aller faire des prélèvements. Et je me souviens d'une vidéo où on te voit au bord d'une rivière à Tchernobyl, où on entend crépiter ton appareil. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là?
Je ne sais pas si c'était Tchernobyl.
Ou je ne sais pas où dans la région.
C'était Mayak.
C'est peut-être. Je ne peux pas te dire, tu as sûrement raison.
Je pense que c'était Mayak.
Et ma réflexion, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu fous là, mon pote?
Oui, c'est la question que je me suis posée aussi.
Parce que ça longtemps. Crachait tellement, j'ai dit, mais casse-toi.
Oui, oui, oui. Ah ben ça, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. À Tchernobyl, j'ai fait des mesures où les gens qui étaient avec moi m'ont posé en voiture. Moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire, le prélèvement. J'ai tout laissé sur place, hein, les gants, les spatules. J'ai pris mon sachet et je suis parti en courant. Quoi. Ouais. Il fallait pas rester. Voilà. Mais bon, j'ai été exposé pas mal de fois à des fortes alors, radioactivité.
D'où se pose ton suivi médical, c'est quoi?
Alors, mon suivi médical, bizarrement, à la CRIRAD, on n'avait pas de suivi. Et puis, il y a un directeur du SCPRI qui s'appelait Mass, monsieur Mass, je crois. Et on s'était renseigné pour avoir des dosimètres. Et lui nous a dit, mais bien sûr, il faut que vous ayez des dosimètres individuels. Et donc, depuis lors, ben, tout le personnel de la CRIRAD a une dosimétrie comme un travailleur du nucléaire. Quoi. Et nous, à l'époque, on n'avait rien. Donc on mesurait par rapport à l'activité et au temps passé. On faisait un rapide calcul de savoir combien de temps on pouvait rester sur place.
C'était au doigt mouillé.
C'était
quoi.
Au doigt mouillé. Et puis parfois l'intérêt, si tu veux, l'occasion, parce qu'on n'allait pas revenir. Quoi. Voilà. Quand on était là, qu'on touchait un truc du doigt, il fallait le faire. Quoi. Voilà. Donc des fois on a un peu dépassé.
Ouais. D'accord. Alors,
enfin, j'ai un peu dépassé.
Oui. Et je voudrais revenir un peu avant. Comment tu te formes? Parce qu'au début, ben, ça tâtonne un peu. Je connais un petit
ah
peu.
Ah oui, parce que...
Alors,
moi,
comment tu t'es formé pour faire les carottages avec les tuyaux, les gros tuyaux de chauffage, là, après jusqu'à la professionnalisation? Comment ça s'est passé?
Eh ben, moi, avec le petit Doug Science que j'avais, la radioactivité, on en avait fait quelques heures, quoi. Voilà. Ouais. Donc après, je me suis formé avec le professeur Béraud à Lyon. Ouais. J'allais une fois par semaine.
Lui c'est ton mentor, quoi.
Ah oui, voilà. Béraud, voilà. Et puis après, donc, j'ai passé la qualification de personne compétente en radioactivité.
Ouais.
Donc ça c'était toujours à Lyon. Et après, ben, je me suis formé après plus pour le terrain. Donc sur le terrain, je me suis formé avec l'Institut européen de l'environnement, qui est à Metz. Et j'ai travaillé surtout avec la sœur à Jean-Marie Pelt pour me former sur les algues, sur les algues des rivières. J'ai été formé après par le professeur Touinck de l'Université de Toulouse dans le cadre du point zéro avant le démarrage de la centrale de Golfech, pour identifier plein de plantes, de trucs comme ça. Et puis après, il y avait Michel.
Il y a Michel qui a...
Agrégé de biologie, donc.
Oui, voilà. Et qui a établi les standards scientifiques de la CRIRAD, même si au départ, il y a eu peut-être un petit peu des tâtonnements. Ça a tout de suite, très rapidement, été un laboratoire la qualité indiscutable.
Oui, ça, c'était Michel, mais c'était le plus exigeant là-dedans, c'était François Mosnier.
Oui, son premier mari.
Oui, son premier mari.
Qui a été d'ailleurs le premier directeur du laboratoire.
Oui, ouais. Donc lui, il avait une... Donc, comme il était pilote long courrier, il était vraiment, c'était... Enfin, lui m'a appris la rigueur.
Voilà. Ce qui n'a jamais dérogé de la CRIRAD.
Ouais. Ouais.
Très bien. Comment tu as vu évoluer, justement, ce laboratoire, les dénigrements? Je me souviens, à chaque fois que je vais à la CRIRAD, je me dis, il faudrait qu'il y ait un petit camping gas d'exposer là-bas.
Je ne sais pas le terme qu'avait employé exactement Barzac.
Vais te le dire parce que j'ai été regarder comment ça se passe. Un jour, il y a une conférence au ministère de la Santé de la République française et Madame Barzac arrive avec un petit camping gas, vous savez, qui est le symbole de nos vacances libres. Elle a dit le laboratoire de Madame Rivasi, c'est ça. Paf, et elle a posé son truc sur le laboratoire. Donc ça devrait être l'emblème de la CRIRAD. Voilà ce qui est devenu le laboratoire de la CRIRAD de Madame Rivasi. Une douzaine de salariés hautement qualifiés, avec des résultats incontestables.
Voilà. Et surtout nous, ce qui était très nouveau à l'époque, c'est que ce soit des indépendants qui publient des mesures de radioactivité. dans l'air, dans l'eau, dans les aliments, dans tout. Avant, c'était l'État qui était gestionnaire de ça. Oui. On voyait M. Pellerin arriver avec sa blouse blanche aux 13h en disant « tout va bien, braves gens voilà. ». Et là, on était le premier laboratoire en France à avoir du matériel performant, même très performant, puisque à l'époque, on avait un détecteur, on a pu acheter un détecteur au germanium hyper pur, alors que le professeur Pellerin avait encore de vieux détecteurs NAI à iodure de sodium. D'ailleurs, ça l'a rendu fou. On a pu
se payer ce matériel grâce à Michel Pollack.
À Michel Pollack, oui. Ouais. Et okay. le commercial qui nous a vendu ce truc-là a pris un risque énorme, puisqu'il travaillait dans la société Canberra, qui a été banni après pendant de nombreuses années par le CEA, par la COGEMA, par. Voilà, ils ont été exclus.
D'accord. Mesdames, comment vous voyez l'avenir de vos relations avec la CRIRAD ?
Eh bien, je pense que, en ce qui me concerne, on va s'approcher. Parce que si j'aurais la chance d'être élue, enfin, on ne sait pas,
élue,
tant que membre de conseil d'administrateur, ici
je vais voter pour vous. Je vais voter pour vous.
Merci beaucoup, je compte sur vous. Alors là, j'aurai la chance et le plaisir de coopérer plus étroitement avec la CRIRAD.
D'accord. Et vous ?
Oui, bien sûr, parce que nous, depuis l'accident de Fukushima, parce que bon...
On va dire catastrophe.
La catastrophe, oui. On s'aperçoit, mais déjà, c'était évident après Tchernobyl, la sensibilité par rapport à la radioactivité des Français, en général, sont très, très faibles, quoi. Et je trouve. Et que on a vraiment besoin des gens, des associations indépendantes qui ont une expertise indépendante et sérieuse pour vraiment passer beaucoup plus de... Parce qu'en plus, c'est très important maintenant, je pense qu'il y a la maladie par rapport à pesticides, cadmium, plein de la maladie de la soie de société qui arrive. Et la radioactivité fait partie de ça. Donc,
fait partie de tout cet ensemble.
Voilà. Donc, c'est vraiment la place des laboratoires comme CRIRAD extrêmement important et on vous soutient, évidemment. Et puis, j'espère qu'on va travailler vraiment ensemble. Que vous soyez plus connus encore, quoi.
Merci beaucoup. Que nous soyons tous plus connus. Hein.
Voilà.
Vous aussi. Une petite dernière question pour toi, Christian. Je vois qu'à la CRIRAD, surtout sur le personnel, et j'espère dans les adhésions, il y a un changement générationnel. Comment tu le vis ? Tu es le premier à partir à la retraite des salariés de la CRIRAD, toi ?
Je n'étais pas le premier, parce qu'il y a eu des personnels administratifs qui sont partis à la retraite avant moi. Mais j'étais le premier du laboratoire.
Ça ne marche pas ? Si.
Ah oui, comme il n'y a pas de retour.
Oui, c'est bon.
Bah, vas-y. Du laboratoire
Photoshop, je m'essaye de la technique, tu sais. Il faut faire attention. Vas-y. Ouais, le premier du laboratoire. Alors, comment tu vois ce changement générationnel ?
Il était temps.
Il était temps.
Voilà. Donc, c'est bien maintenant. Il y a beaucoup de jeunes. Parmi les plus âgés de ces jeunes, il y en a un qui est arrivé à... un directeur adjoint qui est arrivé à la CRIRAD en tant qu'objecteur de conscience.
Ouais.
Voilà, donc lui, il est là depuis très longtemps.
C'est Julien ?
C'est Julien,
oui. Ouais, Julien, qui fait l'équipe avec Marion, notre duo de co-dirigeants et co-dirigeantes. Oui, oui.
Mais moi, des fois, j'arrive à la CRIRAD, il y a des gens que je ne connais pas, quoi. Voilà.
Ouais.
Mais c'est bien.
Très bien, ok. Merci beaucoup à tous les trois. On va faire une petite pause musicale, une respiration musicale. C'est une adaptation de Frédéric Fromet qui s'appelle « Burbure d'être déchet ».
Déclenchement de la petite sauterie à Fukushima. Voici une chansonnette que j'espère rayonnante. Je m'appelle Uranium, c'est moins cool que Géranium. pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Bouge d'ici, tire-toi de là, viens pas t'enterrer chez moi. J'entends bien les palabres du zadiste dans son arbre qui veut pas que l'on creuse, que le sous-sol soit dégueulasse, compte tenu que la Meuse est déjà moche en surface. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Poubelle jaune, poubelle verte, on sait pas toujours trier. Et quand à Bure on projette de s'en foutre, vous gueulez. Je n'allais quand même pas m'enterrer à Chambéry, car l'atome de sa voix, c'est trop un jeu de mots pourris. Mais je l'ai quand même dit, pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Ce fiasco dans les airs, à Notre-Dame-des-Landes, maintenant Bure sous terre, et les beatniks se défendent sans voir que le bonus, c'est du taf à tour de bras, même s'il y aura bien plus de radiation qu'à Pôle emploi. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Là où je vous rejoins, c'est quand Areva devient Orano. Ça fait peur, j'en conviens, ça fait presque Morano. De toute façon, je sais bien que dans ce foutu pays, on n'aime pas les rupins, alors l'uranium enrichit. Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Rien ne vaut le nucléaire, car c'est une énergie propre. Il faut pas vous en faire, oui je suis un déchet propre. Ce programme d'enfouissement est une forme d'élévation, mais hélas mes opposants n'aiment pas la science-fiction. J'en ai encore plein comme ça. C'est dommage les savants et les mangeurs de tofu. C'est dommage, oui vraiment, qu'il n'ait pas d'atome crochu. C'est le camp de la chienlit contre celui des despotes. Peut-on parler démocratie en dénigrant le droit de vote? Pur d'être un déchet, pur d'être un déchet. Le nucléaire c'est pas mal pour faire des blagues sympas. Le type me dit j'ai fait centrale, Tchernobyl ou Fukushima. Il me répond je suis aux affaires, alors je lui demande tragicomique, ce serait pas le ministère de la trahison écologique. Je m'appelle Uranium et ça craint un maximum. Et si l'on décidait d'enterrer plutôt le projet, pur d'être un déchet.
Voilà, Frédéric Fromet sur les ondes de Radio Méca pour cette émission en direct de Montélier à l'occasion de cet événement pour célébrer le 40e anniversaire de la CRIRAD. C'est un spécial Atomic Mac ici dans ces jardins très sympathiques. D'ailleurs, nous vous invitons, les auditeurs et auditrices de Radio Méga, de venir. C'est à l'espace Pagnol, Marcel Pagnol de Montélier. Il y a de quoi se restaurer, de quoi se rafraîchir. Et puis nous vous parlerons tout à l'heure des conférences de l'après-midi. Alors, nous allons vous interviewer. C'est Monsieur Delorme. Monsieur Delorme est là. Il y a Didier Latour qui est là aussi avec un collègue.
Latour.
Oui, en plus j'allais vous dire Delator parce que j'ai un ami qui s'appelle Francisco Delator. Voilà. Excusez-moi pour avoir écorché votre nom, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, Dominique Delorme du collectif Les Bois Noirs, votre premier contact avec la CRIRAD, c'est quand?
Je dirais que la première chose, je n'y étais pas encore. Mais de près ce que je sais de sources
sûres... Vous n'étiez pas encore à quoi? Au Bois Noir?
Je n'étais pas encore dans le collectif Bois Noir.
Ah d'accord.
Voilà. Ouais. Mais de sources très sûres, je sais que la CRIRAD a été, dès sa création, un allié, un soutien très très important pour le collectif Bois Noir. Le collectif Bois Noir s'est créé dans les années 1980, à la fermeture d'une mine d'uranium, située à la limite de... trois départements presque de la dans la Loire, limite Allier et Puy-de-Dôme, à Saint-Priest-la-Prugne. Donc à la fermeture de la mine, à l'époque c'était Framatome, le CEA, etc.
Ce sont ils changent beaucoup de noms ces jours-là.
Oui.
Pour ne pas être reconnus,
c'est comme des d'uranium.
Peut-être pour passer inaperçu et incognito.
Mais ça ne suffit pas. Ouais. Donc ils se sont dit, puisque ces gens se sont gavés avec le nucléaire, ça leur apportait des emplois, etc., on va continuer et on va transformer le site de l'ancienne mine en centre de déchets radioactifs pour la France. Mais c'était sans compter sans la population et qui a su mobiliser beaucoup. Les élus aussi étaient très très actifs. Et le résultat, c'est que ce combat a été victorieux. Donc il faut le dire et le redire, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des combats victorieux contre l'imposition de... Parce que c'était un site qui était absolument déconseillé, bien sûr. Il l'est toujours.
Il était déconseillé par qui ?
Ben par la topologie. On est quand même la mine...
Alors attendez, excusez-moi de vous reprendre. C'est-à-dire que s'il y avait eu une conscience scientifique, jamais il n'aurait fait un dépôt là ici parce que
bien sûr.
La géographie ne le permettait pas.
Oui, bien sûr, parce que l'histoire de la mine le prouvait. La mine a été ouverte dans les années 50-55. Elle a produit 7000 tonnes d'uranium, soit 10% de l'uranium français. Et cet uranium a servi exclusivement à la bombe. Et donc c'est une mine très riche. Mais elle a produit 1,4 million de résidus radioactifs.
Ce qui fait un ratio pas terrible.
Hein. Pas du tout.
Pour la notion de richesse.
Bien sûr. Tout est relatif.
Voilà. Tout est relatif. D'ailleurs, on peut, dans l'étude sur l'extractivité de la Clirade de ces mois-ci,
c'est le gros sujet. Parce qu'en plus, effectivement, dans les déchets d'une mine, même hors nucléaire, comme la mine de lithium, il y a aussi des particules radioactives qui posent problème aussi.
Oui, et des masses de déchets, voilà. Des montagnes, voilà. Des Himalayas de déchets.
Tout à fait. Donc, Framatome, CEA, ont dit on va installer un centre de dépôt de matériaux radioactifs, puisque la Hague commençait déjà à se saturer un peu. Et donc, ça n'a pas abouti. Et ce qu'on dit toujours, nous, c'est que nos 1 400 000 déchets nous suffisent largement. Parce qu'on est maintenant 45 ans après, pratiquement la fermeture de la mine, et c'est toujours aussi désastreux. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le seul endroit de France où des déchets radioactifs sont conservés sous une lame d'eau. En fait...
C'est-à-dire qu'il y a un aquifère sous le dépôt.
Si vous voulez, la mine a commencé par une mine à ciel ouvert, un peu dans un talus, dans une petite colline. Et ensuite, il y a eu des galeries, donc jusqu'à 440 mètres de profond, 50 km de travaux miniers souterrains. Une grosse mine. Et tout ça, c'était dans le lit de la Bèbre, donc une rivière pratiquement à son départ. Et on est donc dans un talweg. Et bien sûr, le plus simple, ça a été de mettre tous ces déchets miniers à mesure dans le fond de la vallée. La Bèbre avait été détournée en rive gauche tout de suite. Et donc dans ce vallon, il y avait un site tout à fait pratique pour balancer toutes les...
C'est-à-dire toutes les eaux de ruissellement, les eaux de pluie qui ruissellent, ça passe dans le...
Alors, rapidement, ils ont fait un barrage. Ils ont monté un barrage, donc un barrage qui est classé grand barrage, 42 mètres de haut, 500 mètres de long. Et donc le talweg a été fermé et les matériaux radioactifs, les déchets sont au fond. Et dessus, quasiment naturellement, l'eau est venue. Et à la fermeture de la mine, etc., on a dit, mais Orano, enfin Areva, etc., nous ont vendu l'idée que l'eau était le meilleur écran contre l'émanation
d'eau. D'où les piscines dans les centrales nucléaires.
Voilà. Oui. Voilà. Là, les piscines sont aussi pour refroidir, mais là, oui. Apparemment, à partir de 2 mètres d'eau, le radon ne passe plus. Donc, pendant 40 ans, 45 ans, les populations ont été abreuvées de ce slogan en disant « il n'y a rien de mieux que l'eau ». Mais on arrive maintenant avec une période qu'on connaît tous de changement climatique. Donc, soit il y a trop d'eau, c'est arrivé, donc il y a eu plusieurs centaines de milliers d'eau qui ont débordé
et soit il n'y en a pas assez,
directement dans la Bèbre sans être retraité.
Soit
il n'y a pas assez d'eau, le bassin se rétrécit et donc il y a des ASECs qui libèrent du radon. Et puis, depuis 50 ans, pratiquement irradier, enfin contaminer de l'eau pour la retraiter avec beaucoup de difficultés. Il y a une station de traitement des eaux, donc elle produit des boues. Et ces boues, depuis 45 ans...
On les remet dans le...
Vous avez raison. Les redilue. Voilà.
Ah bon, d'accord. Oui.
Et alors maintenant, il y a un nouveau traitement avec des zéolites, donc c'est un minéral. Mais c'est pareil, lorsque le minéral, ces zéolites sont saturés, on les remet aussi dedans. Donc il y a une espèce d'absurdité. on s'est dit quand même.
Si c'était si... pas dramatique, on pourrait. Oui, c'est
oui,
une
oui,
blague,
oui,
quoi.
C'est, voilà.
Ok. C'est les shadows qui pompent.
Donc, on s'est dit à un moment donné, le collectif, bah, pourquoi pas si on peut améliorer un petit peu. Mais voilà.
C'est-à-dire que vous êtes en charge de la gestion des
non,
déchets.
Enfin, pas vraiment.
Non, mais en gros.
Ben, si vous voulez, il y a une responsabilité historique, effectivement, sur le collectif. Mais en ce moment, ce qui est très particulier, c'est que depuis le 10 mai et jusqu'au 10 juillet, on est dans la phase consultation enquête publique.
D'accord.
Et on essuie les plâtres de la loi Macron, industrie verte, etc. C'est-à-dire que les deux sont groupés. Et contrairement à ce qui se passait avant, le public n'a pas reçu, n'a pas à disposition les conclusions des services de l'État. Donc parce que les services de l'État sont consultés en même temps que nous. Et en plus, on assiste à quelque chose qui est sans doute fait pour nous rendre un petit peu fous, ou complètement fous, c'est que le dossier qui est consultable en ligne, il est modifié. Il est modifié par le porteur de projet, par Orano.
D'accord.
Donc, on peut lire quelque chose un jour, faire un article, enfin répondre, etc., une contribution, et après voir que ce qu'on a dit n'a plus lieu d'être puisque ça a été changé.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Delorme. Je passe la parole à ma copine Christine.
Bonjour Didier Latorre.
Bonjour.
Présente-toi.
Et aussi présenter votre copain.
Non,
votre
moi, je suis là.
Ah, vous êtes le... Oui, d'accord, ok. Oui. D'accord. J'avais mélangé, excusez-moi.
Bah moi, je crois que je suis là pour le collectif Vigilance Malvézy,
oui.
Qui est l'usine de Malvézy, c'est la porte d'entrée du nucléaire en France. C'est-à-dire que c'est le premier stade de transformation de ce qu'on appelle le Yellow Cake, qui est déjà de l'uranium concentré à 80%. Et la première modification de ce Yellow Cake se passe à Narbonne, qui a géré dans les meilleures années environ 12 000 tonnes d'uranium an. Et cet uranium sert entièrement dans tous les réacteurs nucléaires français. Une bonne partie est importée. Avant ça, il arrive dans la zone de Pierrelatte où il est transformé en UF6. Bon, il y a tout un process sur lequel je vais passer, mais c'est à la fois une usine très polluante du point de vue radioactif, mais aussi du point de vue chimique, puisqu'il y a beaucoup de chimie. Et c'est une usine, bien sûr, fort symbolique en France, et même au-delà, puisque c'est une usine très impactante, et il y a 5 usines comme ça au monde, et c'est la plus grosse. Voilà. Et qui est aux portes de Narbonne, à 4 km de Narbonne. Et le processus de travail de toutes ces matières, c'est de créer beaucoup de déchets nitratés, ammoniac, un peu moins d'ammoniac maintenant, mais il y en a toujours un peu. Beaucoup de déchets, acide chlorhydrique, et ces déchets sont exposés à ciel ouvert et sont éventés. C'est un phénomène d'évaporation et se retrouvent dans l'air. Et si Narbonne a été choisi, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à cette époque, il y a 60 ans, il n'y avait pas beaucoup de travail dans cette région et il n'y avait aucune information. Donc c'était facile d'installer une usine comme ça. Et la seconde, c'est que Narbonne est une des régions de France parmi les plus ventées et parmi les plus ensoleillées. Donc pour l'évaporation de ces matières, c'est absolument formidable. Sauf que ce sont des matières qui s'évaporent avec des vents dominants qui vont de l'est vers l'ouest et de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire qu'il y a des vents en fait dans tous les sens et qu'il y a l'usine de Narbonne à 4 km.
D'accord. Excuse-moi, je veux une précision. Vous dites que ça s'évapore, mais des fois ça déborde.
Alors en plus, il arrive parfois que ça déborde. Effectivement, ça s'est produit à plusieurs reprises, mais notamment, je crois que c'est 2004 la date, il y a eu des boues qui ont pu être récupérées par des habitants, des gens qui habitaient près de l'usine, et qui les ont fait justement analyser par la CRIRAD. Et la CRIRAD a pu prouver qu'il y avait eu une activité de déchets, notamment avec du plutonium, c'est-à-dire des matériaux qui étaient passés par des cœurs nucléaires. Voilà, effectivement.
Didier, tu peux nous dire aussi que tu es administrateur de la CRIRAD ?
Oui, je peux le dire. Oui, de toute façon, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je milite avec un certain nombre d'associations que peut-être il faudrait que je présente quand même, qui sont sur Narbonne, puisque ce collectif Vigilance Malvézy a été créé il y a maintenant 6 ou 7 ans par un ensemble d'associations suite à un combat assez dur qui a été mené contre un projet de traitement d'une certaine partie des déchets qui étaient les déchets nitratés de l'usine. cette proposition de traiter ces déchets a été très décriée parce qu'elle était très dangereuse. C'était des genres d'incinérateurs qui allaient produire des fumées, l'équivalent des fumées qu'il y a sur la périphérie à Paris à peu près chaque jour. Et donc il y a eu de grosses mobilisations jusqu'à des manifestations de 3000 personnes. Et donc la réponse des autorités a été, comme dans beaucoup de cas, de ne pas entendre les protestations de la population. Le préfet a fini par accorder un accord sur le projet de traitement des déchets nitratés. Et donc, bien sûr, des associations se sont montées contre ça. Et à l'issue de toute cette mobilisation, il y a 3 ou 4 associations, dont Greenpeace, Narbonne, dont Arrêt du nucléaire 34 et Sortir du nucléaire Aude, qui ont décidé de monter un collectif de vigilance qui allait donc travailler sur le long terme, quelle que soit la décision qui était prise par rapport à ce projet de traitement des déchets nitratés. De toute façon, maintenant, sur place, des citoyens allaient se former. Et on en vient à la CRIRAD parce que du coup, les gens là-bas se sont tournés vers la CRIRAD parce qu'on a besoin aussi, en tant qu'antinucléaire, d'avoir une expertise à la fois indépendante, parce que la voix des antinucléaires, qui parfois ont une réelle formation technique au bout d'un moment, mais malheureusement, leur voix n'est pas entendue. Hein, et on les entend très peu sur des antennes. Alors s'ils n'arrivent pas avec en plus des billes un peu techniques, un peu scientifiques, on ne les prend pas au sérieux. Donc ce collectif Vigilance Malvésie travaille maintenant depuis 6 ans avec la CRIRAD en prélevant des feuilles de cyprès, des feuilles de pin, des déchets de l'eau, des boues, et les envoie à la CRIRAD qui les analyse. Et on a pu faire sortir, bon, pour faire un petit peu rapidement en résumé, on a pu montrer il y a 2 ans qu'il y avait un taux de radioactivité autour de l'usine qui était important, qui était loin d'être négligeable, puisque à 300 mètres de la clôture de l'usine, on a relevé dans les feuilles de cyprès 100 fois la dose normale qu'il y a dans l'uranium autour de le bruit de fond. Voilà. Et aux portes de l'usine, sous les vents d'ouest, on est quand même à 2 fois. Donc on a montré clairement que cette usine a un impact, ce que nie bien sûr l'industriel, puisqu'il il explique qu'il a tout un process de plus en plus écologique qui permet de récupérer tous les déchets.
Quand vous parlez de, quand on parle de Malvésie, bon, au début, quand on me disait Malvésie, je me disais, mais c'est où ce coin-là? Alors par contre, quand on me dit Narbonne, je sais où c'est Narbonne, je sais où c'est Narbonne plage, je sais où c'est Gruissant plage et tout ça. C'est-à-dire que vous êtes dans ce secteur-là. C'est un secteur extrêmement touristique.
Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé que l'usine était à 4 km de Narbonne.
Oui.
À vol d'oiseau, mais même en voiture. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout près. Quand on est... L'usine, elle est sur un site magnifique. Elle est au pied d'un oppidum élysique, hein, qui est une ancienne population narbonnaise. Et on voit la cathédrale, mais on la voit... c'est une carte postale, quoi. Hein. On est face à une carte postale avec des bassins, une douzaine de bassins qui décantent à ciel ouvert. Effectivement, on est vraiment tout près de Narbonne, une région fortement touristique, viticole... Voilà,
et est-ce que ce ne serait pas plus pour la communication de dire Vigilance Malmaisie Narbonne ou Narbonne plage? Ça serait peut-être plus percutant. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
On le fait aussi, mais bon, là, on n'est pas à la radio, donc on ne va pas le voir.
Oui.
Bon, voilà.
Oui.
On a édité un dépliant il y a quelques années toute la problématique de l'usine où effectivement la photo elle est réelle. Le photomontage c'est le petit fût là, donc on voit une photo où on voit très nettement les bassins pour les gens qui sont de l'autre côté du poste. On voit les bassins et puis au fond on voit la cathédrale de Narbonne. Donc on est vraiment tout près, on est vraiment au pied de la ville et il se trouve qu'il y a un nombre de déchets depuis 60 ans qui se sont accumulés. Il y a environ 1 million de mètres cubes de déchets entre les déchets nitratés, les déchets radioactifs, qui ne sont pas inscrits dans le répertoire de l'ANDRA, hein, ce qu'il faut savoir, puisque ce sont des déchets de début de chaîne, donc voilà, c'est pas vraiment des déchets, hein, c'est des petits déchets. Mais alors qu'il y a eu du plutonium, je le rappelle, hein, c'est-à-dire des déchets particulièrement dangereux, et on est sur une zone marécageuse. On est sur une zone d'étang.
C'est toujours pareil, avec c'est toujours pareil. Hein. Exactement. C'est plus facile, c'est plus plat, quoi. C'est pour
voilà,
ça. Quoi,
voilà. C'était un petit peu ce qu'on parlait il y a 10 minutes. Et effectivement, les antinucléaires, par exemple, beaucoup disent les déchets, le problème, c'est qu'il ne faut plus les déplacer, il faut les laisser sur place, parce qu'on rajoute du danger au danger. Le problème, c'est qu'à Narbonne, c'est presque impossible. C'est presque impossible, parce que le danger, il est terrible pour que ça se retrouve dans les nappes phréatiques, comme ça a déjà été le cas, mais là, de manière encore plus considérable. Hein. Il y a quelques mois, il y a eu des épisodes Cévenol très, très importants dans la région de Narbonne, et les bassins ont déversé. Et l'usine était totalement débordée par cet épisode et a été obligée de rejeter de l'eau sans traitement.
D'accord.
Et elle l'a reconnu, même le préfet en a informé les populations.
D'accord. Alors, si vous voulez, pour les auditeurs de Radio Méga qui écoutent cette émission Atomic Mac spéciale en direct pour le 40e anniversaire de la CRIRAD, vous pouvez venir, c'est à Montélier, à l'espace Pagnol, Marcel Pagnol. Vous pouvez les dossiers sur les Bois Noirs et sur Malvézis, il y a deux dossiers extrêmement documentés, plusieurs dossiers d'ailleurs, sur le site de la CRIRAD pour fouiller dans les détails tout ce que est déployé, tout ce que vous venez de nous dire, et pourquoi pas aussi adhérer et être acteur sur le territoire, même si le territoire est parfois à des centaines de kilomètres. Merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, nous allons poser des questions aux auditeurs présents de cette émission. Je vais prendre ce micro-là. Si c'est bon, c'est bon. Ok, alors, approchez-vous du micro, la chaise et tout ça. Alors, Mireille, bonjour. Vous êtes ici présente pour ce 40e anniversaire. Qu'est-ce qui vous a motivé de venir ici fêter 40 ans avec nous ?
Pour moi, la CRIRAD, c'est une association que je n'oublierai jamais, pour la bonne raison que j'ai le sentiment que sans cette association, sans ces volontés, ce courage aussi pour nos chercheurs d'avoir peut-être abandonné une carrière qui était toute tracée et pour défendre leur engagement contre le nucléaire en raison des dangers qu'ils développaient. Eh bien, grâce à eux, j'ai découvert, alors que j'étais une jeune maman, j'avais deux enfants, de 3 et 5 ans, et puis, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, et puis on était un peu tous paumés, et je ne savais pas trop comment faire. Et je n'ai pas cru un instant aux nuages qui s'arrêtaient à la frontière. Je suis un petit peu réticente à la parole d'État. Et donc, moi, je lisais Le Monde à cette époque-là et je suivis les conseils qui étaient donnés en Allemagne, en Italie, en Suisse. Et au fil de mes lectures, je suis tombée sur la CRIRAD Conseil. Mais moi, je pensais que c'était un laboratoire qui existait depuis très longtemps. Et j'ai suivi à la lettre les conseils qui étaient donnés par la CRIRAD, qui me paraissaient vraiment intéressants et sérieux. Et puis, bon, je ne vais pas m'étendre, mais mes deux enfants, je les ai protégés en leur donnant à manger des choses qui ne risquaient pas d'être contaminées ou minimum. Et j'ai deux grands gaillards dont je suis très fière, que j'adore et qui sont des êtres responsables. Et je n'oublierai jamais ce que la CRIRAD a fait pour moi par son investissement. Et je suis à ses côtés tant que tout ira bien. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup Mireille pour votre engagement. Alors nous avons encore un administrateur au micro, c'est Richard. Alors Richard, comment vous découvrez la CRIRAD ?
Ben moi, je rejoins un peu le même ressenti que la dame précédente qui vient de parler.
De Mireille.
De Mireille, donc. Quand il y a eu cet accident de Tchernobyl, ça a été un événement extraordinaire. Et effectivement, j'habitais sur la zone niçoise, très proche de la frontière italienne. Donc, entre nous, en France, les messages qu'on nous envoyait du style « le nucléaire s'est arrêté à la frontière » grâce au professeur Pellerin de l'époque.
Oui, il avait mis des grands panneaux pour arrêter.
Et même les météorologues le soir, quand ils nous montraient la météo du lendemain, de toute façon, ils nous montraient que le nuage, en fait, était complètement barré à la frontière. Quelque chose d'ahurissant. Et nous, en Italie, à la frontière italienne, les Italiens avaient une vision complètement différente. Et eux, déconseiller de manger des produits frais. et de préférer plutôt les boîtes et les surgelés. Voyez, donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en me renseignant, effectivement, on a commencé à découvrir, après que certaines personnes qui ont créé la CRIRAD à l'époque, avant qu'elle n'existe, à la CRIRAD, ce sont des gens qui, ne croyant pas à l'information officielle, sont allés faire leur propre prélèvement sur le sol, sur du thym, sur des épinards, sur...
Mais sur de l'eau, sur des salades refoulées à la frontière.
Ou même sur le terrain directement.
Oui, 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 je connais bien l'histoire.
Ils ont dû envoyer leurs échantillons dans un laboratoire, en évitant les laboratoires officiels d'État, parce que de toute façon, il risquait d'y avoir des mesures prises en compte différentes. Et il s'est avéré que c'était un scandale d'État, qu'en fait, on nous avait complètement menti sur toute la ligne, qu'on avait minimisé la problématique
et sanitaire. Et ça vous a motivé à vous engager?
Alors, c'est pas venu comme ça du jour au lendemain.
Mais oui, mais c'est toujours progressif. Hein. Mais excusez-moi d'activer parce que oui. C'est la fin de l'émission. Un dernier mot, une dernière phrase, s'il vous plaît, parce qu'on va arrêter là dans 3 minutes. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire une dernière phrase pour nous parler de votre engagement qui ne fait que commencer ou qui va se perpétuer?
Alors moi, mon engagement, il a commencé il y a à peu près 35 ans. Hein. Oui. Je fais partie des plus anciens de la CRIRAD. Mais jusqu'à maintenant, je n'étais jamais investi au niveau de la CRIRAD, à part mon adhésion, des pétitions à signer en ligne, ouais, ou faire des chaînes humaines dans les rues. Mais maintenant, je suis retraité, donc j'ai du temps à consacrer et j'essaye de donner ce que je peux à mon niveau et de faire en sorte que la CRIRAD perdure. Parce que je le dis toujours, et c'est important, une association qui disparaît, c'est un problème, mais un laboratoire comme la CRIRAD, le jour où il disparaît, il n'aura pas un deuxième.
Oui, et puis il y a toute une historique et un savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup, Richard.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez venir nous rejoindre justement à cet espace Marcel Pagnol de Montpellier. C'était une émission Atomic Mac spéciale pour le 40e anniversaire de la CRIRAD. Le programme, Christine, en
le
vitesse.
Le programme rapidement, cet après-midi à 14h, donc maintenant. Quelle mission la CRIRAD peut-elle ou pourra-t-elle remplir en cas de catastrophe? Et la deuxième à 16h30, comment la CRIRAD révèle-t-elle les impacts de l'industrie nucléaire? Conférence très intéressante.
En soirée, il y a aussi, on fera la fête, parce que si on est sérieux dans les analyses, le travail du laboratoire, on est sérieux dans la fête aussi à la CRIRAD. Vous pouvez venir, il y aura tout un tas de choses à grignoter, à se régaler, des apéritifs à célébrer et la fête à faire ensemble pour que l'on puisse attendre dans le combat le 10e anniversaire. Salut, merci à tous et à toutes. L'Atomic Mac est une émission réalisée par Arrêt du nucléaire Drôme Ardèche. Atomic Mac a été au programme musical, c'était Jean-Pierre, à l'animation, aux interviews Christine et Gérard, et à la réalisation technique, merci Hugo. N'oubliez pas d'aller sur crirad.org, Collectif Les Bois Noirs, Vigilance Malvésie et Association Nos Voisins Lointains 311.
L'océan nous a marché dessus, nous a croqué comme un requin. Mais moi seul suis là pour les manger.